Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Jules Juato Ben Julie Mazala, Bézat Hachem.
Amen.
Donc il faut, quand on se lave les mains pour manger du pain, donc tout le monde sait comment faire, on prend un ustensile, on met trois fois sur la main droite, on fait trois fois sur la main gauche, on lève les mains, on fait la bracha et on s'essuie les mains. Maintenant, quand on met l'eau sur les mains, il faut que l'eau arrive partout, partout, jusque là. Béliavad, si on n'a pas suffisamment d'eau, pour d'autres raisons qu'on va maintenant évoquer. Alors si ça arrive que il n'y a que les phalanges qui ont été mouillées et la paume de la main, cette partie là devant et derrière n'a pas été mouillée, c'est valable aussi. Le Ben Israël dit sans bracha, le Rav Avadia Yosef dit avec bracha, bon, chacun fera comme il veut, c'est l'avis de Rashi, d'accord? Tous les avis disent qu'il faut que ce soit jusque là. Rashi dit, ça va même si on fait que les doigts, donc en cas d'une grande nécessité, on peut compter sur l'avis de Rashi. Quel cas de grande nécessité? Donc un cas premier que je dis où on manque d'eau. Mais attention, il faut quand même qu'il y ait révite, qu'il soit révite, donc 50 ml d'eau qui soit versée sur la main minimum. D'accord? Sinon, ce n'est pas fait. Sur chaque main. Maintenant, un autre cas qui est plus courant, aujourd'hui, au Hachem de l'eau, il y a dans les robinets, tout ça, c'est rare qu'on n'ait pas d'eau, mais un qui est plus courant, c'est quelqu'un, il a une blessure. Qu'est-ce qui se passe s'il a maintenant, voilà, une blessure ici, il a un sparadrap ou un bandage, d'accord? Alors comment il fait? Non, mais là, tu n'as pas de bandage.
Ah, d'accord,
si,
bandage.
Voilà, s'il y a une blessure, il n'y a pas de bandage, il fait une éclate dessus, terminé, il n'y a aucun problème. Maintenant, il a une blessure, et il a un plâtre, il a un bandage, il a quelque chose qui fait écran entre l'eau et la main. C'est le problème, c'est quelque chose qui fait écran. Quelqu'un a un morceau de goudron, il a un morceau de couleur, quelque chose qui fait écran, de couleur épaisse, d'accord? Qui fait écran, l'intérêt n'est pas valable, d'accord? Donc il faut que ce soit vraiment que l'eau aille partout, sur la main. Maintenant, si on a une chose qui fait écran, alors on n'est pas rendu quitte. Par exemple, les femmes, quand elles ont des bagues, alors ça dépend. Ça dépend si la bague, c'est une partie intègre d'elle ou pas. Alors, comment on sait? On pose la question. Lorsque vous faites de la pâte, d'accord? Une femme juive, elle fait de la pâte, elle fait des chalotes pour Shabbat, d'accord? Quand tu malaxes la pâte, d'accord? Tu pétris la pâte. Est-ce que tu enlèves la bague ou pas? Si elle dit, bien sûr, j'enlève la bague, alors ça fait écran, parce que c'est une chose qui est étrangère à elle. Mais même si elle garde la bague même quand elle pétrit de la pâte, c'est vraiment une partie intégrante de son corps, donc là, ça ne fait pas écran entre elle et sa chair. Maintenant, si tu as un bandage, évidemment, ça fait écran. Personne ne vit avec un bandage toute sa vie, d'accord? Alors, comment on fait? Alors, c'est permis. La halakha est comme ça, la stricte, elle dit que si maintenant le bandage est collieux de la blessure, tu peux l'enlever le bandage. Fallait-il là et remettre le bandage, c'est le top. Alors tu ne peux pas, des fois tu as une blessure, d'accord, tu n'as pas le droit d'enlever le bandage, etc. Alors dans ce cas-là, si le bandage il est juste exactement sur la blessure, alors il ne fait pas écran. Tu verses l'eau sur la main avec le bandage, et vu que le bandage n'est que sur l'endroit de la blessure, ça ne fait pas écran. Le problème, ça c'est au niveau de la halakha. Mais moi, je ne connais pas un bandage de ce type-là. Aujourd'hui, tous les bandages, ils dépassent. D'accord, Chazal, on parle du temps du Talmud, ils mettaient un petit truc dessus comme ça, c'était leur bandage. Maintenant, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, tu as un plastique, tu as un machin, tu as un crochet, tu as tout.
Mais
voilà.
En plus, ça
abîme, d'accord. Donc, dans ce cas-là, si maintenant le bandage, si tu peux faire en sorte, un cas hypothétique, je ne sais pas comment on fait, que le bandage n'est que sur l'endroit de la blessure, et ce n'est pas un problème de verser de l'eau dessus, tu fais comme ça, et c'est valable, tu fais la bracha. Si, par contre, comme c'est d'habitude le cas, le bandage, il excède, il va plus loin que le lieu de la blessure, il va sur la chair aussi, la lentille-là n'est pas valable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La seule façon d'autoriser, soit tu ne manges pas de pain, soit, si tu veux vraiment manger du pain ou du chocolat, etc., tu mets un gant sur ta main. Tu ne peux pas mettre un gant, tu mets un sac en plastique, quelque chose que la main ne pourra pas toucher le pain ou les aliments de façon directe. Pas que tu vas manger, il y en a qui font comme ça, par exemple, ils ont pas le, c'est marqué ici, quelqu'un maintenant, il a pas d'eau, rien du tout, alors il n'y a vraiment pas le choix, il n'a que du pain à manger, d'accord? Dans ce cas-là, il peut mettre des gants ou un plastique sur les mains et manger comme ça son pain, sans faire la bracha, son intila, sans rien du tout. Il ferme aussi et il mange. Il ferme aussi, bien sûr, et il mange. Il y a des gens qui se trompent, ils disent, bon, je vais faire comme ça, et ils ont les mains qui ne sont pas recouvertes, ni de gants, ni de plastique, mais quand ils touchent le pain, c'est avec un plastique. Ça, c'est interdit, c'est pas valable. On n'a pas que tu vas toucher un moment sans le plastique. Il faut que le plastique entoure bien ta main. Donc la main qui est blessée avec le bandage, on ne peut pas faire un éclat dessus à cause du bandage, alors on met un plastique dessus ou un gant ou quelque chose, d'accord, ou on la met dans la poche, tout le repas, mais on ne la sort pas de la poche. La poche, c'est aussi un bandage, mais bon, je crois que personne ne tient dans le cou pendant un repas entier, la garder dans la poche. Donc on met un gant, un bandage, et comme ça on peut manger. Alors on fait l'intila sur l'autre main, et on fait la bracha à l'intilat yadaim, au pluriel quand même. Parce qu'on fait sur la coutume que Dieu nous a ordonnée de faire l'intila, de laver les mains. D'accord ? Bien que là, dans ce cas, on ne fait que la main, néanmoins, dans la bracha, ça ne change pas, et on fait netilat yadaim, se laver les mains. Oui.
Ah, là, je me dis que si on prend un plastique, c'est interdit si on touche du pain. Mais si c'est du pain qui est brûlant, ça veut dire, nous, notre intention, c'est de ne pas du tout le toucher, même sans faire exprès, parce qu'on va se brûler les mains.
Non, non, il y a...
Comme l'histoire avec le café, là.
Non, Chazal, on a mis ça à l'eau, et ça, les Israël n'ont pas fait de différence. Tu manges du pain, s'il est brûlant, tu vas mettre dans la bouche, tu vas attendre qu'il refroidir un peu, n'est-ce pas? Donc, de toute façon, tu entoures toute ta main et on ne discute pas. Voilà. C'est compliqué quand on est blessé, ouais. Alors, deuxième solution, qui est beaucoup plus aisée, si maintenant la blessure n'est pas dans les doigts, elle est sur la paume de la main, qu'est-ce qu'on fait? On va compter sur l'avis de Rashi. Il dit que si tu fais jusque-là, c'est valable. L'autre main qui est bien, tu fais en entier. Là, tu fais jusque-là. Tu ne touches pas l'endroit de la paume de la main parce qu'il y a la blessure ou le bandage, etc. Et dans ce cas-là, tu fais la bracha sans problème à l'état de dingue. Oui.
Et puis, quand l'eau coule, je fais comme ça ou comme ça vers le
bas. Alors, ok, tu poses la question, l'eau qui coule. Ouais. On en parle beaucoup dans Shulchan Aruch, dans les lois, etc. Il faut comprendre une chose. Pourquoi est-ce qu'on fait trois fois? On fait trois fois, un, pour nettoyer la main s'il y a de la saleté. Deux, parce que c'est la netila, on fait la netila, et l'eau qui reste, elle est impure. Et troisième fois, pour enlever, dégager l'eau qui est impure avec de l'eau pure. Il faut comprendre que l'eau est impure que à condition que tu aies versé moins de revit. Passe-moi ton verre. Dans un verre pareil, revit, voilà, c'est un tiers du verre. Un tiers du verre. Qui fait la netila avec un tiers de ce verre d'eau? Personne au monde. Donc ces lois dont on parle, que l'eau va aller et le rendre impur, etc., c'est obsolète, c'est fini. C'est peut-être un temps où l'eau était extrêmement rare, les gens disaient qu'il a comme ça, comme il fait les mains, ils avaient des mains toutes petites, je ne sais pas comment ils faisaient. Déjà, M. Chavouroy, il dit c'est un peu, tu vois très bien qu'avec Revit, on ne peut pas faire, on parle même de faire Revit sur les deux mains, d'accord? C'est vrai que si tu fais les deux mains à la fois, c'est valable. Mais techniquement, aujourd'hui, où on a des mains de géants par rapport à eux, ou je ne sais pas, l'eau se rapte ici, ou je ne sais pas, le M. Chavouroy déjà, il y a un siècle, il dit c'est impossible. Aujourd'hui, encore à plus forte raison, d'accord? Donc, le seul cas où on parle de ce problème que l'eau descend, elle revient, etc., c'est vrai, c'est uniquement dans le cas où on a fait l'intila avec moins de réveillite. Donc on n'en parle pas parce que ça casse la tête, c'est très compliqué, et en plus, ce n'est pas du tout actuel. Merci pour ton verre.
Et si c'est... Vous voyez, il est plâtre. Si c'est en plâtre, du coup, s'il y a de l'eau qui vient, c'est interdit de toucher l'eau, le plâtre, maintenant, parce que le plâtre, en général, c'est...
Alors, en cas où il y a un plâtre, on peut faire l'intila, alors on met un gant sur le plâtre et on mange avec. On fait l'intila sur l'autre, mais on fait la bracha. D'accord? Oui.
La blessure sur les doigts.
Pardon?
Si j'ai une blessure sur le doigt.
Une blessure sur le doigt.
Donc je mets un gant.
Ouais.
Et après, l'autre main, je prends un étilat tranquillement.
Voilà, tu fais la bracha, exactement. Voilà, exactement.
L'autre main, c'est trois fois aussi.
Alors, le trois fois, comme je dis, à l'origine, on fait trois fois, mais c'est une coutume. Quelqu'un veut faire une fois, c'est valable aussi du moment qu'il y a au moins réveillite. Que le doigt soit pur et voilà. C'est bien de faire trois, c'est plus, ça purifie plus. Mais tout à fait, une fois comme ça, c'est tout à fait valable. D'accord? Tu as permis partout dans toute la main. Ça a à voir avec cela. Certains poskim écrivent que si maintenant, voilà, j'ai fait l'étila avec une main, et après, par inadvertance, j'ai touché avec ma main mouillée, ma main sèche. Vu que cette main est impure, et il y a de l'eau ici, de l'étila, ça impurifie l'eau, ça impurifie la main. Ou maintenant, par exemple, j'ai fait un éclaté d'aim sur mes deux mains, par exemple, ou sur une main, peu importe, et quelqu'un est passé et a touché ma main. D'accord? Vu que cette personne-là n'a pas encore fait un éclaté d'aim, il impurifie ma main. C'est écrit même un enfant qui a un jour. D'accord? J'ai la main mouillée, tout coup, je sais pas, il y a un gosse, tac, il touche ma main. Il a un jour, le tout petit, ouin, d'accord? Hop, s'il touche ma main, ça rend impur ma main. C'est un avis comme ça. Un autre avis, ça c'est l'avis de Rav Ovadia Yosef. Le rabbin Sambacho, il dit non, il prouve, d'un point de vue ilchatique, d'accord, que tout ce qu'on dit maintenant, que l'eau que j'ai sur la main, elle impurifie. C'est uniquement, le seul cas, c'est quand c'est de l'eau du jet de Netila. Tu es en train maintenant de faire Netilat Yadayim. Et il y a, avec un keli, avec un ustensile, et il y a moins de réveillites qui arrivent sur une main. Quelqu'un maintenant, il prend, il fait Netilat Yadayim, d'accord, et il met moins de réveillites, moins de 50 mg, millilitres, sur sa main. Cette eau, elle est impure. Elle est impure. Il doit refaire de nouveau Netilat Yadayim pour enlever tout cela. Il y a même qui doit essuyer et refaire. Mais on peut compter sur l'avis qui dit, c'est pas valable comme Netilat. Maintenant, moi je fais Netilat maintenant Yadayim sur ma main gauche, d'accord, je verse comme ça. Et il y a un peu d'eau qui est arrivée du jet sur ma main. Ce n'est pas réveillite. Ça provient du jet d'eau. Ça, c'est impur. Et à un moment, il faut l'essuyer et refaire une chaise de dime. Mais c'est extrêmement rare un cas pareil. C'est extrêmement rare. Comment maintenant, peut-être quelqu'un qui fait une chaise de dime à côté de moi, il fait tchic, d'accord, et hop, c'est une partie qui gicle sur moi, sur ma main. Et donc, ça, c'est de l'eau de Netila. C'est moins de réveillite. Cette eau-là, elle est impure. Il faut l'essuyer et refaire un tête d'aim dessus. Ça, ça impurifie. Donc, il y a deux avis. Un qui dit que toute main mouillée d'eau de Netila, elle s'impurifie au contact d'une autre main. Un avis qui dit que non, c'est uniquement maintenant s'il y a moins de révite d'eau qui provient du jet de Netila Tadaim. C'est dans ces cas-là. Voilà. Avec cela, vous sortez de tous les problèmes de contact impurifiant. Une question intéressante. On a déjà parlé la dernière fois que normalement, toutes les mitzvot, on fait la bracha avant la mitzvah. Pourquoi notre Yadayim on fait entre se laver les mains et s'essuyer? Parce qu'il se peut que les mains seront sales et ce n'est pas kavod, ce n'est pas honorable pour la bracha de faire la bracha avec les mains sales. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. Et après, vu qu'on doit faire les brachot avant la mitzvah, alors on fait la bracha et on essuie, on considère que essuyer, c'est la fin de la mitzvah. Maintenant, l'Arbe Saint Bachaoul prouve que ce n'est pas du tout vrai que l'essuyage, c'est la fin de la mitzvah. Il prouve de Maran que quand les mains sont mouillées, tu as mis maintenant, si tu as fait gréville, tu as bien mis de l'eau comme il faut bien, il n'y a pas d'eau impure sur tes mains, la mitzvah elle est terminée. Et il dit, et c'est un cas où on fait la bracha après. Voilà. Rodi Sof n'est pas d'accord. Il dit non, il dit que l'essuyage, c'est la fin de la mitzvah. Qu'est-ce que ça change? Ça change une chose qui est extrêmement courante. Quelqu'un fait une klat daim ici à la yeshiva, Shabbat soir, d'accord? Tout le monde fait le kiddush, tout le monde fait une klat daim. Toi, tu commences à faire une klat daim, un autre coup de toi, il fait « Ah, Netilat Yadayim, tu as déjà mis de l'eau sur tes mains. » Tu réponds « Amen » ou pas? Question très très difficile. Alors, il y a deux avis. Awad Yosef, il dit « Mon cher ami, la mitzvah, elle a commencé seulement quand tu as fait la bracha. Tu as fait la bracha et tu vas essuyer. » Là, tu fais la bracha avant de faire la mitzvah. La mitzvah, c'est essuyer. Donc, tant que tu n'as pas fait la bracha, tu peux répondre amen. Amos Abashul dit exactement le contraire. Il dit, on fait la mitzvah avant la bracha. Quand tu laves, c'est là que tu fais la mitzvah. Donne ta tadaim, tu te laves les mains. Et quand tu fais la bracha pour après la mitzvah. L'essuyage, c'est rien. Donc, il ne faut surtout pas faire répondre amen dès que tu as commencé à te mouiller les mains. Mais une fois que tu as fait la bracha, que tu t'essuies, là, tu peux déjà répondre amen. Alors on est bien embêté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'il y a une loi qui dit que dans un cas où on a un doute, on doit répondre amen ou pas, on ne répond pas amen. Mais c'est extrêmement grave de ne pas répondre amen. C'est extrêmement grave. Il y a un Zohar terrible que j'ai montré un jour à Ovadia ou c'est un autre élève dernièrement, d'accord? Mais si c'est on a un doute, on doit répondre amen ou pas, on ne répond pas amen. Par exemple, vous savez très bien que, je répète ici parce que c'est bien que les gens entendent cela, c'est très courant surtout en France, que le cher Tzibour, quand il fait la Chazara, il ne doit pas commencer, il a fini une bracha, il ne doit pas commencer la bracha d'après avant qu'il laisse le temps à la majorité du public. Il y en a des avis qui disent tout le public de répondre Amen. Et très souvent, ils sont pressés, ils font très vite. On n'a pas le droit de répondre Amen. Alors, les gens n'ont pas répondu Amen, enfin, ils répondent Amen, mais l'Amen n'est pas valable. Donc, sa bracha, elle est batala, donc toute la chazara, elle est fichue et c'est terrible. D'accord? Maintenant, comment je vais à Minyan pareil? Et j'entends le cher Tzibour. Maintenant, des fois, j'ai vu que, hop, il a commencé trop tôt, on n'a pas le temps de répondre. Mais des fois, oui! Attends, si je ne réponds pas à une fois où il n'a pas commencé trop tôt, je n'ai pas répondu à Minyan bracha, c'est extrêmement grave. Alors, je réponds pas. Mais je ne sais pas, moi, à l'avance, il va commencer tout de suite après. Ou des fois, il commence tout de suite après, des fois, après il laisse le temps de répondre amen, une seconde environ. Alors, je réponds, je ne réponds pas. Alors là, je pose la question à Rabbi Bachol lui-même, il m'avait dit, tu ne réponds pas. Pourquoi? Parce que Safek, amen, quand on fait un Safek, si on doit dire amen ou pas, on ne dit pas amen. Donc, dans ce cas maintenant, on était à Daim, vu qu'on a deux grands poskim, un qui dit tu réponds, l'autre qui dit tu ne réponds pas, et un autre qui dit tu ne réponds pas à la fin, donc depuis le début jusqu'à la fin, on ne répond pas amen, et comme ça, c'est le mieux. Faites attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent amen quand ils sont au milieu. Je crois que Béliavad, on peut toujours compter sur un avis que c'est valable. D'accord? Mais a priori, pour faire bien, si quelqu'un, maintenant, il s'est trompé et a répondu amen, il pourra toujours compter sur un des deux avis de ces grands poskim que ça va. Parce qu'un dit que oui, quand l'un dit oui, l'autre dit non. Et quand l'autre dit non, l'autre dit oui. D'accord? Mais a priori, c'est mieux de ne pas répondre amen dès le début de qu'on se lave les mains jusqu'à la fin de l'essuyage. Une échate d'âme n'est valable que si on l'a fait avec un ustensile. D'où on apprend cela? De deux endroits. La échate d'âme que faisait les Kohanim au temple, qui appartient à un ustensile, le kior. Il y avait le kior, il y avait une sorte de bassine d'eau au temple, et se lavait les mains et les pieds. D'accord? Nous, aujourd'hui, on n'a pas la capacité de purifier les pieds. Les Kohanim au temple avaient la capacité, et devaient faire une échate d'âme des mains et des pieds. D'accord? Ils tenaient le pied et versaient comme ça. C'est un peu gymnastique, mais bon, c'était les Kohanim. D'accord? De même, on apprend cela de Efer Para Adouma. Très bientôt vient Mashiach, et à faire la dixième vache rousse. La première, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait. On a la descente de celle-là. Elles ont été mélangées à toutes les. Il y a eu 9 pendant l'histoire. Chacune des 8 autres, il y a un peu de ces descendres de Moshe Rabbeinu qui ont été mélangées à celles des autres. Et le Mashiach vient, va faire la dixième très bientôt, Berat Hashem. Et il paraît qu'il y a des endroits, des grottes dans la région ici, où dedans il y a des jars, avec des jars aussi. Il reste la cendre. De la cendre de celle de Moshe Rabbeinu. Bon, Moshe reviendra et nous dira comment faire. De là, on apprend qu'on fait une tataïm avec un ustensile. Quelqu'un qui ouvre le robinet comme ça, ce n'est pas valable. C'est un ustensile qui n'est pas un ustensile. Par exemple, un chapeau borsalino comme on a nourri, c'est ça. Tu le mets à l'envers, tu n'as pas de clé, tu es parti à faire qui vote sa déquime, on n'a pas de clé, on est dans la campagne, comme ça, allez, j'ai mon chapeau, tu mets à l'envers, tchic, comme ça. Pas valable. Un chapeau, c'est pas. Ben Ishra a écrit aussi avec un kisul gdera. Un couvercle, c'est pas un ustensile. C'est un ustensile, mais c'est un ustensile de couvercle. C'est pas un ustensile de mettre de l'eau dessus. D'accord? Donc, il faut un ustensile qui est utilisé voilà, pour être un contenant. Maintenant, pour avoir un statut d'ustensile, discussion aussi. Est-ce qu'un verre jetable? Quelqu'un prend une boîte de conserve maintenant, on fait des cornichons dans le pique-nique, on n'a pas une échelle d'aïm. Allez, bon, on verse les cornichons quelque part, on prend le verre de la boîte de conserve de cornichons, on fait une Nutella avec. Ou bien un verre jetable. Est-ce que c'est un statut d'ustensile ou pas? Alors, Rabbi Sambachou dit que non, parce que tu l'utilises, après tu jettes. D'accord? C'est pas un ustensile, c'est rien du tout. Rabbi Yosef, il dit que oui, on peut continuer là-dessus, mais il dit quand même, ça vaut la peine que quand tu l'utilises, tu penses que tu vas encore l'utiliser encore plusieurs fois. Si on est toute la yeshiva, alors la boîte de conserve, on l'utilise, c'est bon, on va l'utiliser pour tout le monde, ou le même verre jetable, on le passe à tout le monde, comme ça, c'est plus un statut d'ustensile qu'un ustensile jetable. Mais si on peut éviter, c'est mieux parce que pas tout le monde est d'accord sur cet avis-là. Ah. Oui.
Du coup, quand on est à l'hôtel, par exemple, quand il y a des verres là, dans la salle de bain.
Un verre, ça va.
Si on fait une étilade, parce qu'on se dit qu'on va rester une semaine à l'hôtel tous les matins, on va devoir prendre une étilade. Du coup,
le verre, c'est un ustensile à 100 000%, il n'y a aucun problème. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.